Vous écoutez
RMC.
Il est 19h48, l'after continue jusqu'à 20h ici en heure américaine. Il est 1h48 du matin en France. L'after continue jusqu'à 2h. Nico Jamin prendra la suite les nuits de l'after continuel, évidemment jusqu'à 4h ce soir. Puis à 6h, il y aura le match Tunisie-Japon. Bref, la Coupe du Monde ne s'arrête jamais sur RMC. On est partout dans toutes les villes et tous les matchs sont sur RMC, évidemment, toutes les nuits. J'espère que vous avez pris cette bonne habitude avec nous depuis le début. Puis les podcasts sont toujours disponibles, hein, parce qu'on vous demande pas de faire d'enchaîner les nuits blanches, évidemment. Mais les podcasts sont là pour vous. Alors, les statistiques folles de la Turquie. La Turquie est éliminée. Hein, deux matchs, deux défaites face à l'Australie et face au Paraguay. Mais je vous donne les stats de la Turquie face à l'Australie. 72% de possession, 30 tirs contre l'Australie. La Turquie perd.
Ce match-là.
2-0. Et le match face au Paraguay, donc il y a quelques heures, 78% de possession de balles.
Paraguayen était à 10. Hein.
32 tirs. Donc la Turquie a réussi avec une possession de balle à presque 80% sur les deux matchs, avec 62 tirs en deux matchs, à ne pas marquer un but et à se faire sortir. Est-ce qu'on n'est pas là sur la fameuse anomalie statistique de Paulo Breitner?
Ouais, non, parce que ce qu'il faut voir pour l'anomalie, c'est le nombre d'occasions que tu as eu réellement. Ton nombre de XG, si c'est uniquement la possession, ça va pas suffire. Mais oui, de toute façon, il y a un problème.
Quoi qu'il 62 en soit. Tirs, je pense que j'ai pas le chiffre des fameux XG, mais 62 tirs. Bon,
oui, tu veux dire, ils ont pas tout mis en tribune.
Bah non. Ouais.
et en fait, ça prouve aujourd'hui la difficulté de jouer contre des blocs bas. C'est vrai qu'on a tendance à un peu penser quand on voit les grandes nations. À se dire que ouais, normalement petites équipes bloc bas et qualité technique sont censées pouvoir arriver à faire la différence, jouer entre les lignes, mais non, c'est pas facile. Et en plus de ça, évidemment, il faut une ligne d'attaque qui est performante, qui soit en mesure de pouvoir jouer dans les petits espaces et surtout d'être une très bonne finisseur. On l'a dit, hein, c'est le problème de la Turquie, c'est qu'ils ont créé des occasions mais ils n'ont pas pu marquer. Et derrière, il faut aussi avoir une équipe, une ligne défensive qui est en mesure justement de pouvoir rester proactive, et ça c'est le plus difficile en fait. Quand t'as 80% de possession et derrière tu prends des vagues, il faut avoir des défenseurs qui soient en mesure, bien sûr, évidemment, de couvrir leur dos, de pouvoir défendre bien, de rester concentré. Et c'est ce qui a peut-être fait des fois à la Turquie. Et quand tu vois aujourd'hui qu'ils sortent.
Je les ai, les XG, là.
Avec
2,17 contre le Paraguay.
Ah, c'est beaucoup.
Et un petit peu moins de 2 contre l'Australie. 1,36.
Là, les mecs devant, ils doivent changer les pieds, alors.
Alors, en fait, c'est ça le problème, c'est que t'as 32 tirs, par exemple, dans le match contre le Paraguay, mais t'as 5 tirs cadrés, déjà.
Ouais, mais c'est le premier problème, ouais.
Déjà, premier problème, puis, qu'avant, pour marquer un but, faut cadrer. Donc, 32 tirs, c'est bien, mais si t'arroses de partout, déjà, ça sert à rien. Donc, quand même, quand tu fais deux matchs identiques, tu peux évidemment te poser la question, parce que quand t'as un match comme l'Espagne en a eu un contre
c'était différent contre l'Australie, hein.
Non, c'est différent, mais néanmoins, ça fait deux matchs à 30 tirs sans but. Tu peux te poser, effectivement, légitimement des questions. Quand ça arrive une fois, tu peux avoir la malchance. Quand ça arrive deux fois, il y a des raisons.
Parce que contre le Paraguay, le match était très ouvert. Lorsqu'ils ont pris le carton rouge, d'ailleurs, je sais pas si vous en avez parlé, si on en parlera, là, tu sais, la main devant la bouche de Miguel Almirón qui a pris le rouge directement. Ah. Et d'ailleurs, ce qui était très surprenant, mais apparemment, c'est les règles, donc c'est logique.
C'est le premier à cette prise rouge sur cette
Sachant règle. Que je connais très bien Almirón, pour avoir joué contre lui une dizaine de fois MLS, et je peux te dire que c'est pas le plus sympa. Donc je sais pas ce qu'il lui a dit, mais en règle générale, quand tu te caches la bouche, c'est pas pour dire que tout va bien.
Mais en plus, lui, non, mais excuse-moi,
c'est un idiot.
Il est bête. Parce que il connaît la règle, j'imagine quand même.
Ouais.
Donc il le fait. Le joueur turc. Le joueur turc, qui lui aussi le voit direct, il se tourne vers l'arbitre.
Ah oui, alors lui, tu peux dire qu'à l'école,
il va balancer.
Il va balancer.
Mais en même temps, il joue avec les nouvelles règles, le joueur turc, il arrive.
Mais c'est là que tu vois quand même, on banalise justement les performances des grosses nations, je le répète encore. C'est pas facile de jouer contre les blocs bas. Et derrière, il faut avoir des défenseurs qui soient en mesure de pouvoir courir. Et c'est pas toujours le cas. Et les Turcs, pour le coup, contre l'Australie, là, ça a été vraiment la contre-performance parce qu'ils ont, ils ont fait front devant la surface australienne et derrière les Australiens. Sur deux contre, ils les ont, excuse-moi du terme, mais ils les ont eu quoi.
Et la Turquie qui joue les États-Unis en dernier match peut pas compter vraiment sur la mansuétude des États-Unis puisque t'as la première place quand même qui.
Non,
qui
de toute façon, ils sont éliminés. Hein.
Ouais, ils sont éliminés. Ouais.
Ouais. Ouais, parce que c'est une histoire de différence de but.
De goal-average particulier. Ils ne peuvent plus passer devant les autres équipes, en fait. C'est fini.
Puisqu'ils ont perdu.
En points, ils ne peuvent pas rattraper les Américains et comme ils ont perdu contre les deux autres, c'est bon. Donc on a déjà deux éliminés, c'est Haïti.
Et la Turquie.
C'est quand même
une cote.
Et peut-être la Tunisie ce soir s'ils perdent.
Les Turcs, c'était il y a quelques temps, non?
Ouais, mais dans un groupe comme ça.
La Turquie d'avant.
Non, mais c'est une cote de les mettre derniers.
Oui, de mettre derniers.
T'as quelques joueurs quand même.
Ils ont quand même.
Oui, mais t'as des joueurs, mais je veux dire, c'est plus la Turquie d'avant.
Et puis le Paraguay, c'est pas terrible non plus.
Paraguay, c'était très très moyen. Le rythme de ce match.
Ciseaux a été l'homme du match.
Ouais, vous avez remarqué d'ailleurs. Vous avez remarqué le
passeur décisif sur le but.
Hein. Le groupe des États-Unis. Vous avez remarqué le groupe du pays organisateur.
Arrête, tout de suite, t'es dans le complotisme.
Mais non, mais ça a toujours été un classique.
Mais
ça.
Non, mais arrête.
Le pays organisateur a toujours un groupe en bois. C'est un classique.
On est juste derrière le tableau. Plutôt pas mal.
Un tableau dégagé derrière.
Donnez-lui la coupe. Allez, c'est bon.
Mais ça.
Et là, ce qui est fort, c'est.
Déjà, d'un point de vue technique.
Trois pays organisateurs, trois groupes en bois.
Comment on fait. Mais n'empêche que. Coupe du monde à 48, c'est un classique.
T'es forcément obligé d'avoir des équipes en bois.
Est-ce qu'on pourrait se pencher sur comment tu fais avec l'ordinateur pour faire
bon,
ça.
Bon, je pense qu'il y a,
Platini nous l'avait dit.
Ah, d'ailleurs, tiens, allez sur rmcsport.fr, il y a un article très marrant. Je sais plus qui l'a écrit, mais il s'intitule Unpopular Opinion. Faisons une Coupe du Monde à 64, comme ça, il n'y aura plus de meilleur troisième. Eh oui, il y a 64, tu auras 32 qualifiés. Ouais. 64 qualifiés.
Direct les 16e.
32 qualifiés, et hop, t'es parti.
Et la Coupe du Monde dure 3 mois.
Voilà, on a déjà vu une tonne de matchs.
Je suis pas sûr qu'on peut emmener Daniel 3 mois à New York. Hein. Enfin, en tout cas,
ici la Coupe du Monde.
Daniel, il a pris ses marques, là, c'est bon.
Ça va pas tout le temps être ici la Coupe du Monde.
Daniel, c'est possible, c'est plutôt Kevin.
Ah bah Kevin
aux États-Unis.
La question,
la question
se pose.
Déjà, c'est pas sûr qu'on le ramène à Paris déjà.
Non, il va rester normalement.
Il est possible qu'il
reste. Il a investi, non?
Il m'a quand même demandé qu'il y ait des prix au mètre carré du côté de Woken.
Je lui ai dit pourquoi. Moi, il m'a dit j'ai raté ma carrière, j'aurais dû jouer à MLS. Ouais.
Et lui, il m'a dit mon prochain poste, c'est directeur sportif, non pas d'un club de MLS, mais d'un club de NFL. J'ai dit tu connais le football américain? Il m'a dit je suis très calé.
Là, on monte d'un cran.
Il n'a plus de limite. Sky est sa limite.
Alors, j'aimerais finir sur une étude qui a été menée
pas avoir le temps.
Par la Social Science Research Network.
Oh là, mon Dieu.
Donc, qui explique, qui veut comparer en fait les affinités politiques des supporters de Messi et de Ronaldo. Alors évidemment, Messi ou Ronaldo, c'est le grand débat. Est-ce que t'es plutôt Messi, t'es plutôt Ronaldo? L'étude...
Donc des gens neutres. T'élimines de cette réflexion les Portugais, les Argentins.
C'est basé sur des éléments factuels que je vais donner. Supporter Messi, c'est donc, selon cette étude, être de gauche. Alors que supporter Ronaldo, c'est être de droite. Alors, comment ça s'est passé? Je vous lis l'étude que j'ai sous les yeux. Donc les chercheurs, on explique que Messi serait le symbole d'un certain progressisme, alors que Ronaldo aurait tendance à mettre en valeur un peu le côté conservateur. Messi a...
J'aimerais avoir des détails sur ça déjà.
Messi, apparemment, suscite plus de sympathie des personnes dotées d'un esprit analytique, alors que Ronaldo, c'est plus des personnes qui ont une très haute estime d'eux et un penchant pour l'autoritarisme. Voilà ce qui explique... Voilà ce qu'explique l'étude. Je sais pas si Daniel, tu te reconnais dans quelqu'un qui a une très haute estime de soi et qui est un peu autoritaire.
Peut-être moi, je préfère Messi. Donc
peut-être que
déjà,
c'est toi.
Ça colle pas.
Ça colle pas déjà.
Voilà. Donc
progressisme, ça colle pas non plus.
Le progressisme. Messi incarnerait un certain progressisme selon l'étude.
Oui, ça colle pas.
Je vois pas en quoi ça peut coller.
Donc toi, tu rejettes les résultats de cette étude.
Bah, en fait, ils sont tous les deux individualistes. Ils sont tous les deux leaders d'un collectif. Avant de se fondre dans le collectif, déjà, ils ont même, on peut même dire à la limite, des gens qui bossent un peu pour eux. Donc ils sont plutôt dans une vision très capitaliste, déjà dans la gestion de leur vie. Donc après, si on oublie ce côté économique du truc, Messi, c'est quelqu'un qui a un talent naturel. Donc le côté talent naturel, limite ADN, eugénisme, là c'est carrément de la droite, mais assez poussé quoi. Donc je vois pas en quoi Messi peut représenter des valeurs de gauche. Je comprends. Mais alors ce genre d'étude avait été faite également sur Nadal et Federer.
Ah oui.
À chaque fois t'as genre d'opposition.
C'était ouais, droite Federer et gauche Nadal.
Tu sais les Américains sur quoi ils l'avaient fait ça à l'époque dans les années 80 sur Coca et Pepsi.
Ah ouais.
Coca c'était les républicains, Pepsi les démocrates.
Ah tiens. Burger King et McDo, non, il y a pas.
Donc oui, il y avait le côté à l'époque.
Nicolas Jamin est en train de bouillir.
La nouvelle marque et Coca c'était le côté tradi. Et bien sûr.
Je pense que salut tout le monde.
Ah, attention, ton micro n'est pas allumé et Quentin ne brusque pas.
Nico, tu vois pas que Messi est l'incarnation d'un collectif sublimé par une individualité. Ok,
c'est exactement ce que j'ai dit.
Alors que Cristiano Ronaldo, c'est uniquement une individualité.
Oui, mais il n'a pas toujours été dans sa carrière. Il n'a pas toujours été.
Mais la question, c'est que
la
question du sondage, c'est Jean de gauche, vous sentez-vous plus proche de Messi ou de Cristiano Ronaldo? Ils répondent, ça leur appartient. Ils se reconnaissent plus dans un homme qui distribue, qui est un chef d'orchestre, plutôt qu'un soliste devant qui plante but sur but. C'est aussi simple que ça.
Oui, mais
la gauche, c'est le collectif, le partage, l'échange
avec un leader, tu veux dire?
Oui.
Et la droite, c'est l'égoïsme, c'est ce que tu dis.
Et la droite, c'est l'individualisme. Je caricature évidemment, mais c'est ça. C'est la société libérale. On est dans le pays de l'ultralibéralisme, c'est ça. Chacun, avec ses moyens, peut réussir.
Et ce qu'on dit,
c'est deux philosophies différentes, c'est tout.
Ce débat sera mené avec Walid et Kevin.
Ils sont de gauche, tous les deux aussi, c'est pareil.
Juste un.
Moi, je suis absolument en désaccord avec ce que dit Nico, mais il le dit à 19h58 et j'ai envie d'aller dîner. Parce que ce qu'on dit de Messi dans ce qu'il le critique.
Toi, t'es un mec de droite, alors tu pourrais rester partagé.
Et dans sa gestion de groupe, c'est tout le contraire.
Il y a un truc
mais bon, c'est pas grave.
Gilbert et Nico, il y a un truc qui me gêne, moi, dans le fait de dire que Cristiano Ronaldo, c'est plus des gens de droite qui s'en connaissent. Parce que moi.
Parce que Ronaldo, c'est le travail. Non, le travail exacerbé, la valeur travail et le mérite.
On n'a pas tout donné et dont c'était pas tracé, qui a travaillé énormément et qui est arrivé à ce qu'il est arrivé. Et moi, je trouve que ça, c'est une valeur aussi. De gauche.
Je mais pense bon, que les gens parlent de leur comportement sur le terrain, de leur profil de joueur technique. Voilà, c'est ça.